dans le retour. Gravel.
102.1
Boulevard te tient informé toute la semaine.
Oh, oui.
Marceau le matin, 6h. Le pit stop avec Gravel, 7h45. Oh, le point de max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
Juste Gravel dans le retour peut faire ça.
Marceau le soir, 8h. Boulevard 102.1. Maintenant 100% parler en semaine. 100% talk.
Boulevard 102.1.
Salut, bonsoir Québec, bienvenue sur les ondes de Boulevard 101. Mon nom c'est Yann Marceau, je t'accompagne pour les 60 prochaines minutes. En t'en souhaitant une belle soirée, si ce n'est que de la pluie qui sera à la grandeur de la région de Québec. Minimum de zéro pour ce qui est de ce soir. Demain jeudi, ce sera nuageux avec un maximum de plus 3 degrés. En soirée, des passages nuageux, minimum de 6. Et vendredi, ce sera de la neige intermittente avec un maximum de zéro. Pour les 60 prochaines minutes, on parle avec les passionnés de chasse et de pêche. J'ai le meilleur, c'est Martin Bourget, mon collaborateur. Il est président du groupe Aventure Chasse-Pêche. Donc, un excellent 60 minutes où on parlera de chasse. On parlait aussi du programme de rachat des armes à feu par le gouvernement fédéral. Et aussi, je vais aborder des légendes, des rumeurs qui circulent à la grandeur du Québec sur des apparitions d'animaux qu'on n'était pas habitué de voir chez nous. Donc, Martin Bourget va nous démystifier tout ça à partir du moment où je pèse sur ce piton-là.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
C'est un plaisir de le retrouver encore une fois ce soir. C'est un des préférés collaborateurs de cette émission-là. Les auditeurs m'en parlent à chaque fois que je les croise, surtout les passionnés d'aventure, de chasse et pêche. Martin Bourget, qui est aujourd'hui le président du groupe Aventure Chasse-Pêche. Je te salue.
Hey Yannick Marceau, comment ça va toi?
On se voit pas assez souvent. Là, on se voit par l'entremise des internets, comme on dit dans le langage qui n'existe pas encore. Mais on se voit jamais en personne. Tu viens jamais me voir en studio.
Ben, je trouve ça cute que tu prennes le temps de souligner que je te manque.
Ben oui. C'est les hommes de 2025, c'est ça. On se libère de nos émotions.
Je vais passer de voir. On va finir la chasse là, en même temps. Mais à tous les années, quand j'ai la chance de t'amener 2-3 pièces de viande de gibier, je le fais. C'est un petit peu le propre d'être un chasseur, le fun aussi de faire goûter et de découvrir nos viandes de gibier. Puis, écoute, c'est un emblème de testostérone. Là. C'est un bon steak, là, de la bonne protéine de viande sauvage, bio, sans antibiotiques. Là. Ça fit avec un mâle alpha comme toi. Fait que je te l'amène à toi-même.
C'est ça.
Quand je peux.
Si je vais à la chasse et à la pêche avec mes chums, je suis plus le photographe puis celui qui sert la bière. Mais quand je me ramasse d'un resto, moi, je suis le carnivore de prédilection. Je dis oui à tout.
La dernière fois qu'on s'est vu avec de la viande, c'est de l'ours que je vous amenais. Je vous avais amené de la saucisse d'ours, du steak haché d'ours, des trucs comme ça. Cette année, on va essayer d'aller peut-être un petit peu plus vous faire découvrir des belles pièces de serre de Virginie, avec des recettes, question que vous fassiez des bons steaks, du bon stock, des bons sautés asiatiques avec ça. C'est pas mal trippant.
Ah, je vais adorer ça. Puis encore la semaine dernière, j'avais un souper avec des amis, puis ils ont amené de l'orignal. Ça goûte, ça goûte le ciel, là. T'sais, moi, j'adore la viande de bois. C'est pas de la viande que tu es habitué de goûter. Puis quand tu as la chance d'y goûter, puis c'est bien cuit, là, c'est bien apprêté, ça goûte le ciel.
Et une des viandes là, que j'adore utiliser pour faire découvrir la viande de bois, puis souvent démocratise, puis souvent ouvre la porte à des nouveaux chasseurs parce que c'est une chasse qui est hyper facile, puis qui n'est pas intrusive, on va dire ça comme ça. Tu vas vraiment checker tes odeurs, tes ci, tes ça. On reçoit des gens, on leur sert de la perdrix en fondue chinoise, des cubes de perdrix en fondue chinoise. Si tu ne séduis pas la bouche d'un carnivore avec ça, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire pour le faire. Et honnêtement, on a converti des non-chasseurs en chasseurs avec une fondue chinoise à la perdrix comme ça.
Une fondue chinoise à la perdrix.
Oh que oui, mon homme. Puis c'est tellement simple, hein? Juste les poitrines coupées en dés dans un plat, tu sais, juste les faire cuire dans le bouillon à perdrix. C'est tellement simple, mais c'est tellement, tellement bon, là, qu'il y en a plusieurs. Ah, oh, ouais, on pourrait aussi avoir plus de ça. Ben, pas de problème, je vais t'accompagner. Tu vas prendre ton cours, tu vas avoir ton arme à toi, tu vas venir chasser avec nous autres, ou je vais te prêter mon arme, mais va passer ton cours. On va prendre tes permis, on va aller dans les dates légales, puis tu te ramasses. Il y a des quotas à respecter. C'est ce qui fait la beauté de la chose, c'est que tu apprends la conservation en même temps, mais tu vas avoir ta propre perdrix que tu vas servir à tes enfants, de la viande bio, pas d'antibiotiques. Puis écoute, si tu veux évoluer là-dedans, on va t'accompagner. Là.
Ça fait exotique. J'aime ça, de la fondue chinoise à la perdrix. Ça fait vraiment exotique. Sais-tu, moi, la pire histoire qui m'est arrivée?
Vas-y.
Je suis un grand sensible. Pour tous ceux qui me connaissent, là, mes chums proches savent que je suis extrêmement sensible, ce qui fait en sorte que des fois, je peux être touché alors que ça n'a pas vraiment lieu d'être. Mais je te ramène à v'là 20 ans à peu près, ma cousine qui décide de se marier. Quelques semaines avant, j'avais été faire un tour pour la voir, pour vérifier si le mari, c'était quand même un bon gars. Moi, j'étais... Il boit-tu de la Coors Light ou il boit d'autres choses? Fait que j'étais allé vérifier, puis sur son terrain, il faisait l'élevage. Puis là, tu vas te rappeler de ce temps-là, c'était la mode, l'élevage d'autruche.
Oui, oui.
Et sur le terrain, les deux autruches étaient Luc et Yvonne.
Oh, padaille, il y avait un nom après ça, avant d'y manger.
Oui, puis lequel était le mâle, lequel était la femelle, j'étais pas capable de les distinguer, mais j'ai côtoyé Luc et Yvonne, et je me suis amusé, j'ai essayé de la flatter. En plus, Luc, il était gentil, Yvonne aussi. Puis je me ramasse au mariage, et là, je me rends compte que j'ai aucune idée de ce que je mange, jusqu'à temps que la cousine a dit « T'aimes-tu ça, ce que tu manges? » « Ben oui, c'est bon. » J'ai dit « Quoi? » Ben, « C'est Luc et Yvonne. » Ça m'a détruit par l'intérieur. Je m'étais attaché à ces petites bêtes-là, puis j'avais mangé de l'autruche. J'avais pas trouvé ça mauvais, soit dit en passant, là. Mais faut pas qu'il y ait de prénom. Faut jamais qu'il y ait de prénom.
Non, si t'achètes un cochon pour faire du bacon, n'appelle-le pas Caprice, là. C'est pas...
On mange Caprice.
Oui, c'est ça, c'est pas une bonne idée du tout. Du tout. Mais tu sais, c'est souvent des contacts avec des viandes exotiques comme ça qui vont faire évoluer les gens, puis on va réussir à faire ça. Parce que depuis, ça va faire quoi? À peu près ça, 20 ans qu'on a plus régulièrement des viandes comme ça, du cerf rouge, de l'autruche, du wapiti, des trucs comme ça, en épicerie, des viandes plus exotiques. Puis ça a ouvert un peu les horizons. Puis depuis ce temps-là, on a de plus en plus de non-chasseurs qui nous posent des questions souvent. « Hey, pourrais-tu t'acheter de la viande d'orignage? Pourrais-tu t'acheter de la viande de chevreuil? » Et malheureusement, il faut savoir que c'est complètement illégal. Tu te souviendras d'un homme qui a été condamné pour avoir demandé à acheter de la viande pour faire une tourtière, de la viande de gibier. C'est illégal dans la loi sur la mise en valeur protection des milieux fauniques. On n'a pas le droit d'en vendre. Par contre, la majorité des chasseurs, ça va leur faire plaisir de vous recevoir à leur table et de vous faire goûter ces viandes de bois-là ou de vous remettre un morceau puis de vous dire comment le faire cuire. Et ça, il ne faut pas se gêner. Tu sais, à un moment donné, il faut comprendre aussi que le chasseur qui va chercher un orignal ou un chevreuil, à la livre, sa viande lui revient beaucoup plus cher que le bœuf qu'on achètera à l'épicerie si on calcule toutes ses dépenses. Par contre, si vous vous occupez d'une autre partie du repas, le vin, les salades, les ci, les ça, puis que le chasseur fournit la viande, bien, c'est souvent des très bons échanges équitables qui font des fichus de bons soupers où est-ce que tout le monde peut découvrir du stock. Puis vous n'avez pas acheté de viande de bois, mais vous avez participé au reste du souper, puis vous la découvrez avec un chasseur qui va sûrement avoir une histoire à vous conter derrière ça.
Est-ce que, je suis pas fou, j'ai pas vu, je l'ai vu à l'épicerie chez Métro, là, dans un congélateur, il semble y avoir de la viande, là, de la viande de bois. Ça, c'est parce que c'est élevé,
Oui.
OK, je comprends.
C'est des cervidés qui sont élevés soit en ferme cynégétique ou en captivité. Fait que souvent, tu vas avoir, ça va être écrit viande de cerf. Généralement, ça va être du cerf rouge. Soit dit en passant, qui est honnêtement une des meilleures viandes de cerf. Les enfants, moi, quand j'ai chassé le cerf rouge, là, des carnivores, des bêtes sanguinaires. Ils ont passé au travers du cerf rouge dans le temps de le dire. Et le pire, c'est qu'ils étaient parfaitement conscients. Là. Le cerf rouge, il est taxidermisé après le mur. Puis ils mangent du cerf rouge. Ils sont parfaitement conscients du processus. Ils sont conscients qu'il y a eu mort animalière, puis ils sont capables de l'identifier, ils le voient sur le mur. Puis ils sont capables, au travers de tout ça, parce que ça arrive régulièrement avec des chevreuils et des orignaux qui se ramassent sur nos murs, mais dans nos assiettes aussi, de respecter la viande qu'ils ont devant eux autres. Puis on est capable de leur ramener des notions au niveau du gaspillage alimentaire beaucoup plus facilement comme ça, en disant, là, on a retiré la vie de cet animal-là que tu vois sur le mur, mm-hmm, pour que tu puisses en manger. Alors, le respect que ça inculque est excessivement important à rentrer dans le ciboulot des enfants, mais ça se fait hyper rapidement quand tu es dans une famille de chasseurs comme ça. Alors, le cerf rouge, pour revenir à ça dont tu me parles, essaie-le. Si tu envoies dans les frigidaires à l'épicerie, oui, c'est un peu plus cher. Prends la peine de l'essayer. C'est un délice incroyable. Et c'est du cerf d'élevage. Donc, c'est comme, tu sais, il n'y a aucune différence entre ce cerf-là et le bœuf qui est à côté. Là. Les deux ont passé dans le même processus.
OK. Puis est-ce qu'il y a une différence dans le goût entre un cerf d'élevage et un cerf qui est élevé, ben, qui a grandi dans la nature?
Pas définitivement, parce que la nourriture n'est pas la même. Définitivement. Hein, on va parler, par exemple, de... prenez juste de la truite. Hein, de la truite nourrie à mouler versus de la truite pognée en lac qui mange des petits poissons puis des insectes. On va avoir des truites qui vont être rouges, 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 qui vont être super bonnes, de la petite truite de ruisseau. Puis si tu arrives avec de la truite qui est nourrie à mouler et que la chair est blanche, 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 bien, le goût ne sera pas le même. C'est la même chose chez nos cervidés. On va sur l'île d'Anticosti, c'est principalement du conifère que là-bas. Il n'y a presque pas de feuillus. Le feuillu est excessivement rare. Puis généralement, il est ravagé par les chevreuils. Mais le goût de la viande d'un chevreuil sur l'île d'Anticosti versus à Montmagny ou encore à Québec est totalement différent. Alors, c'est encore plus grand comme écart quand tu arrives dans un élevage où est-ce que le cerf est nourri avec de la moulée qui est calculée en termes de protéines, de suppléments, puis de etc. Ça ne goûte pas la même chose. Mais vous vous en rendrez pas compte parce que le plus proche que vous allez pouvoir aller à la chasse au cerf élaf, le cerf rouge, c'est en Europe. Fait que vous ne pourrez pas faire de comparaison, fait que vous allez le trouver bon.
Ouais, vu comme ça, vu comme ça. On chasse quoi ces temps-ci, Martin? On est-tu encore à l'orignal?
L'orignal est terminé. Ça a été, soit dit en passant, une saison qui a été assez difficile avec les températures, avec la méga super lune qui s'est pointée drette dans la semaine de gros, la grosse semaine de chasse à l'orignal. Et on peut le voir hein, par les médias sociaux. Les années précédentes, on voyait des grands mâles majestueux sur les photos. Là, on en a vu quand même quelques-uns cette année, mais on voyait beaucoup plus de petits individus, des jeunes bocs qui faisaient des erreurs et qui sont récoltés. C'est une meilleure viande. En passant, la viande est plus tendre que le gros boc avec le panache de 60 pouces. Va toujours être un petit peu plus... Pas glandulaire, là, mais ça goûte le rut. Ça goûte le rut. Hein? Ça va goûter le rut. Ça goûte la venaison, un gros boc en rut. Les plus jeunes goûtent un petit peu moins, sont plus tendres. Mais c'est beaucoup de ça qu'on a vu se récolter cette année. Donc, année un petit peu plus difficile. C'est terminé. Là, on est rentré dans le chevreuil. Alors, on est rentré dans le cerf de Virginie. Le cerf de Virginie, déjà, ça fait quelques semaines qu'on les voit apparaître là, avec le cou. Et ça, vous le voyez, hein, quand les cerfs rentrent en rut, là, ils ont le cou énorme. Ils se sont entraînés. Ils s'entraînent vraiment. Ils vont faire du rattling dans les buissons pour se renforcer le cou pour prévoir les combats qui s'en viennent pendant le temps du rut. Fait qu'on le voit, là, les chevreuils rentrent en rut, pouf, les coups grossissent en masse, ça commence à se promener un petit peu plus. Ils sont plus, entre parenthèses, ces tas de carottes puis ces tas de pommes, ils sont beaucoup plus à essayer de trouver leur dulciné. Et ça, c'est commencé. Là. C'est commencé, donc les gars sont présentement, généralement, dans le bois à la chasse. Ça l'a ouvert... Dans certains secteurs, là, on parle depuis le 4 octobre, là, arc et arbalète, là, il y a de la chasse dans certains secteurs, mais ça pousse là, jusqu'au 23 novembre là, à l'arme à feu, le carabine, fusil, arbalète et arc là, dans certains secteurs. L'île d'Anticosti, ça va même un petit peu plus tard en décembre. Donc, c'est quand même une bonne grande période, le cerf de Virginie. Là. Et oui, on est carré dedans. Là.
OK. Puis pour ce qui est, bon, tu me dis qu'on a eu la lune là, pendant la chasse, c'est ce qui fait qu'il a été mauvais. Mais au niveau du cheptel, est-ce qu'on est en augmentation du cheptel d'orignaux sur le grand territoire ou on est en diminution?
On est en diminution. On est en diminution, puis je te dirais que la gravité de ce terme-là varie dépendamment des territoires où est-ce qu'on est. Il y a des territoires qui sont beaucoup plus affectés. Sautez pas sur la chasse comme premier indice pour la diminution. Est-ce que c'est un facteur? Oui. Les forestières en sont une, la villégiature en est une. La tique de l'orignal est excessivement présente. Ah oui. Le ver de neige est excessivement présent. La tique de l'orignal est ce qui nous inquiète le plus au niveau du cheptel. Donc oui, il y a une diminution. Puis tu sais, on est encore en attente du fameux plan de gestion sur la serre. Oubliez pas, hein, au Québec, un chasseur, il y a des règlements qu'il doit suivre et ces règlements-là sont inculqués par un plan de gestion qui est renouvelé à chaque temps d'année en vertu de l'évolution ou de la régression des différents cheptels. On va ajuster qu'est-ce que tu as le droit de chasser, quel sexe, dans quelle période, avec quelle arme de jet ou encore arme à feu pour venir niveler un peu les efforts de chasse versus la ressource qui est disponible. Mais le plan de gestion à l'Orignal, on l'attend, ça fait longtemps. On se demande ce qui se passe avec ça. On se demande aussi beaucoup qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement et les efforts qui devraient être faits présentement pour contrôler le problème de tic de l'Orignal, puisqu'en milieu de, en milieu de ravage, hein, les orignaux l'hiver vont se rassembler pour ravager. C'est excessivement problématique. On va voir des veaux qui sont tellement épuisés parce qu'ils n'ont pas d'énergie, ils se font pomper le sang par des tiques, ils vont descendre en chemin forestier, puis juste de remonter le buton de neige pour retourner dans le bois vers le ravage, ils vont mourir là. On les trouve morts en bord de chemin.
OK. Alors, à ce moment-là, quand on veut faire augmenter le cheptel, c'est quoi les décisions qu'on prend? Puis je te pose une question comme ça, là, tu sais, je suis ignare là, à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut faire la reproduction d'orignaux dans le but de les réintroduire comme on fait avec certaines espèces?
Ben écoute, un peu comme sur l'île d'Anticosti, on fait ce qu'on appelle des exclos. Donc, on va faire des grands enclos dans lesquels... Sur l'île d'Anticosti, c'est un petit peu l'inverse. C'est pour protéger les espèces feuillues, pour pas trop que ça se mange. Mais c'est quelque chose qui a été envisagé dans le passé, de faire d'énormes enclos, un peu comme, et ça s'apparente beaucoup, dans le dossier du caribou forestier. Mais je te dirais qu'avant de penser à faire des enclos, il y a une notion que, tu sais, je me souviens sur nos plaques d'immatriculation, là, ça fait dur d'un fois, il y a une notion qu'on a garochée haut et fort dans les médias quand on a parlé de la diminution marquante et de la quasi-disparition du caribou forestier, qu'on ne ramène pas dans le cadre de l'Orignal et qui pourtant est omniprésente. Et ça, c'est le niveau de, c'est le niveau de dérangement du milieu, si on le veut, là. Donc, il y a un niveau qui est mesuré, donc perturbation, le niveau de perturbation du milieu. Alors, il y a des niveaux de perturbation du milieu qui sont calculés en termes de pourcentage. Ça inclut la présence des forestiers, ça inclut la présence de villes et villages, ça inclut les routes, ça inclut la chasse. Ça inclut les loisirs, ça inclut tout. Et ce niveau de perturbation-là du milieu, il est connu des biologistes. Et c'est quelque chose qui... C'est triste de voir qu'on l'a crié partout dans le cadre du caribou forestier et dire qu'il faut absolument réduire en bas de la barre des 20% le niveau de perturbation du milieu dans les secteurs où est-ce que cet animal-là est là et se reproduit. Dans le cas de l'orignal, on ne l'applique pas pantoute. On a cette problématique-là ou est-ce qu'on ne souligne pas ça du tout? Les travaux forestiers sont là, les chasseurs sont là. On est tous sur le même niveau là, là-dedans. Là. L'ensemble des activités dans les secteurs névralgiques devraient être diminuées de manière drastique pour diminuer le niveau de perturbation. Là où est-ce que, par exemple, il y a des ravages hivernaux? Là où est-ce que, par exemple, il y a des zones connues de reproduction et qui sont efficaces? On devrait réduire au minimum les loisirs, les déplacements, les travaux forestiers pendant la période d'accouplement. Il faudrait que ce soit réduit dans certains secteurs névralgiques. Et ça, on n'y a pas encore touché. L'autre point qui fait de la peine, l'année passée, je suis à l'Assemblée générale annuelle avec le gala en soirée de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Et au travers de la Fondation Héritage Fonds, on y donne des bourses d'études. Et là, on a un gars de l'Université Laval qui vient présenter les travaux de ses étudiants qui ont ciblé des secteurs où est-ce que les veaux étaient particulièrement atteints par la tique de l'orignal. Et ils ont pris un système qui existe beaucoup, beaucoup en Afrique du Sud. Tu sais ce que c'est qu'un gun de paintball?
Oui.
Ah, les Africains, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les balles de peinture puis ils ont mis un stuff dedans qui tue les tiques. Un peu comme, tu sais, ce que tu mets sur ton chien, là, tu vas mettre une goutte dans la fourrure, c'est un anti-tique qui va se répandre sur l'ensemble de ça. Bon, un produit comme ça, ils ont mis ça dans des balles de peinture, puis quand ils détectent des individus qui ont des tiques ou qui sont probablement affectés, bien, ils tirent dessus pour que la balle de peinture, elle explose, puis l'arachnicide qu'il y a dedans se répand sur l'animal. Mais les étudiants de l'Université Laval qui sont sur ce projet-là ont ciblé un territoire, ont trouvé des veaux qui étaient fortement affectés. Ils les ont tirés avec ces balles de peinture-là, avec l'arachnicide dedans. C'est-tu quoi? Ils ont un résultat qui est phénoménal au niveau de la réduction de la tique de l'orignal dans ce secteur-là. On a une autre étude qui avait été publiée, qui a des tests qui avaient été faits avec un autre stuff qu'on mettait dans les blocs de sel qui est le sulfate de levamisole. Il y a des moyens qui ont été testés et qui sont fonctionnels, qui sont efficaces. Celui qui vient d'être testé par les étudiants de l'Université Laval dans une chaire de recherche avec les balles de peinture, avec l'arachnicide dedans, fonctionne. Mais je me demande, quand on voit notre cheptel, on voit notre roi des forêts qui est en train de foirer bien net, puis on a des solutions comme ça qui sont... Les résultats sont probants, mais ce n'est pas déjà rendu partout. Au moment où est-ce que... Ah, tu vois, la rage du raton laveur qui vient de refaire surface, on commence à faire de l'échantillonnage pas mal. Bien là, on est en appel aux candidatures pour mettre une équipe en place pour aller vacciner tous les ratons laveurs de la province, là, d'une façon ou d'une autre. Mais l'Orignal, on a une solution pour réduire la tique hivernale, la tique de l'orignal. Puis il n'y a absolument rien qui est fait présentement. Ça reste dans un programme d'études. Le gouvernement ne l'a pas adopté. On n'a pas mis une table de concertation spéciale là-dessus. On ne fait absolument rien. Les chasseurs sont les, on va les appeler comme ça, les derniers gestionnaires hors gouvernement de la forêt, crient haut et fort pour avoir des solutions pour régler ces problématiques-là, parce qu'on les voit, nous autres. On est à longueur d'année dans le bois et on voit la quantité d'orignal dans certains secteurs réduire drastiquement sous le poids de la tique et de la perturbation du milieu, qui sont deux points qu'il faut adresser le plus rapidement possible. Tu arrêterais la chasse demain matin, là? Complètement, là? Et si tu regardes les chiffres de récolte, là, dans l'ensemble le taux de mortalité ou le taux de diminution des cheptels des secteurs, ça ferait à peu près pas de différence comparé à si on adresse la tique de l'orignal et les niveaux de perturbation de ces milieux-là.
OK, c'est assez inquiétant ce que tu nous mentionnes. Est-ce qu'il y a de l'arrosage de masse, là, comme on voit, exemple, avec la tordeuse d'épinette, là, on prend des avions puis on arrose certains secteurs. Ça peut-tu se faire, ça, ou ça aurait un impact trop dommageable pour l'environnement?
De deux, c'est que on aurait de la misère à atteindre la cible parce que la tique, là où est-ce qu'elle est vulnérable, c'est lorsqu'elle tombe dans l'herbe au printemps. Et là, elle va se reproduire, puis elle va regrimper sur un animal pour faire ses œufs, puis etc., pomper du sang pendant tout l'hiver par la suite. Alors, quand elle est au sol, mais c'est que souvent, elle est en sous-couvert forestier. Fait que tu sais, excuse-moi, je vais utiliser un anglicisme, non, mais quand on regarde une forêt de loin, il y a comme un toit, hein, les grands arbres, on appelle le canopy, puis tu as le sous-étage forestier. Mais c'est dans le sous-étage forestier que se trouve la tique. Alors, même si tu arroses, tu vas cibler la cible des arbres, tu n'atteindras pas le sous-couvert forestier de manière efficace. C'est pour ça que ce qu'on essaie de faire, on essaie de cibler les aimants. Les aimants, c'est quoi? C'est là où est-ce que toutes les tiques sautent pour passer l'hiver, pour faire leurs œufs, puis mettre bas après, sur les orignaux, puis sur les chevreuils, sur les grands mammifères. Là, tu as l'occasion d'avoir comme une espèce d'entonnoir où est-ce que toutes les tiques sont garochées là, puis tu peux traiter cet animal-là, puis faire mourir les tiques que tu... Ça, ils l'ont prouvé. Ils le font. Il y a des résultats de recherche. Ça fonctionne. T'sais, Héritage Fonds a même donné des bourses pour ces... Et merci à FEDCP pour ce qu'ils ont fait. Non, maintenant, il faudrait que quelqu'un au gouvernement... Là, qui l'Université Laval découle un peu du gouvernement. Je pense qu'ils ont accès un peu à ces programmes-là. Il faudrait que quelqu'un allume et qu'on mette en place ce genre de programme-là.
Si rien n'est fait dans les 10, 15, 20 prochaines années, toi qui es un grand visionnaire, t'es comme le Jojo médium de la chasse et pêche, sauf que toi, tu te trompes jamais. ça va ressembler à quoi si rien n'est fait?
Je pense que dans 10-15 ans d'ici, le statut de l'orignal au Québec va être le même que le statut du caribou forestier actuellement si on ne fait rien.
Yish.
D'autant plus qu'il y a un cycle naturel qui tend présentement à pousser l'orignal au nord. Et ça, tu sais, jadis, les gens chassaient le wapiti ici. Hein, c'était du wapiti qu'il y avait ici. Il a été poussé au nord, puis bon, le caribou qui a été poussé au nord, l'orignal qui a pris sa place, chevreuil qui est monté d'en bas. Là, on recommence à avoir du wapiti. C'est à la frontière au sud. On recommence à voir beaucoup de cerfs-mulets. C'est à la frontière au sud. On en a déjà dans l'Ouest canadien en masse. Mais ici, on commence à en voir, c'est à la frontière au sud. Notre orignal, il se ramasse au nord. On a des communautés, des Premières Nations au nord, là, qui sont tombées face à des traces sur le tour des lacs qui n'avaient jamais vu de leur vie. Et ils se demandaient, hey, c'est un tabarouette de gros caribou, ça. Non, c'est un orignal. Il est rendu là. Il est rendu en haut. Dans le temps de la chasse à l'orignal, c'est pas rare de voir du chevreuil monter à hauteur de... En haut de la zec Batican-Nelson, dans le coin de la zec de la Blanche, dans Portneuf, là, c'est bourré de chevreuils. L'orignal est poussé plus au nord. Puis ce qui arrive quand le chevreuil ouvre puis que les gens auraient l'opportunité de chasser le chevreuil pour remplacer leur récolte de denrées parce qu'ils n'ont pas pu dans le temps de l'orignal parce que l'orignal était rendu au nord, bien, le chevreuil il migre au sud pour aller ravager. Fait que quand le chevreuil ouvre, il n'y a plus de chevreuil. Ce qui reste d'orignal est redescendu. Fait qu'il y a en plus ce cycle naturel-là qui est en train de bouleverser énormément. Qu'on soit climato-sceptique ou pas, il y a des choses qui changent au niveau des cycles dans le déplacement des grandes hardes. Et ça, ça en fait partie. Fait que, tu sais, 1+1, là, si on fout rien, là, un peu comme présentement le roi des rivières, là, on pourrait parler du saumon, là, c'est catastrophique. Qu'est-ce qui se passe? Là? Si le gouvernement ne met pas sa main dans le dossier, là, puis il n'agit pas de manière drastique et rapide, je pense que dans 10-15 ans, le statut de l'orignal est le même que le statut du caribou forestier présentement au Québec.
Wow! À l'inverse, y a-t-il des animaux qu'on voyait peut-être plus aux États-Unis qui décident de migrer vers le Canada avec le fameux réchauffement climatique?
Ben, écoute, le wapiti et le cerf-mulet, dans certains secteurs où est-ce qu'on n'est pas habitué de le voir proche de la frontière du Québec, commence à migrer pas mal. Ça, on le voit de plus en plus. Sinon, je te dirais que c'est des choses que les gens vont moins voir un peu. On va voir, entre autres, certaines espèces d'oiseaux un petit peu plus au nord qu'on voyait moins avant. Dans le dindon sauvage, le dindon, c'est sûr qu'il y a une reproduction qui est incroyable ici, mais on commence à voir des espèces plus sudistes traverser la frontière. Donc, on a des observations de dindon sauvage qu'on va voir un petit peu plus dans l'État de Washington en temps normal, par exemple, qu'on a vu du côté canadien cette année. Fait que oui, il y a une certaine migration qui se crée de certaines espèces animalières qu'on n'est pas habitué. Et je prenais des photos cet été sur la rambarde de la galerie ici parce que je voyais des oiseaux que je ne connaissais pas. Puis Nicolas Thivierge, mon réalisateur, c'est un gars qui il a appris avec Sylvain, l'ancien animateur de l'émission, qui est un ornithologue biologiste. J'ai envoyé des photos. Je dis, c'est quoi cet oiseau-là? Hey, t'es où, toi, là? Mais je suis chez nous. Il dit, non, t'as pris ça sur Internet. Je dis, non, je suis chez nous. Hey, c'est tel oiseau. Ils entendent normal, là, sa frontière maximale, là, c'est à peu près 400 km plus au sud. Hein? Puis il est rendu chez vous. Tu t'en rends compte? Je dis, il y a vraiment des choses qui changent.
Ouais.
C'est l'ensemble de l'écosystème s'en ressent définitivement. Puis n'oubliez pas une chose. Si vous observez, parce que l'orignal, c'est une grosse pancarte visible, le chevreuil, c'est une grosse pancarte visible. Si vous observez des changements au niveau de l'orignal, puis du chevreuil, puis du wapiti, puis du caribou forestier, ça, ce ne sont que des indicateurs. Le reste suit. Ça veut dire qu'il y a des changements dans la marthe, qu'il y a des changements dans la rainette faux-grillon, il y a des changements dans l'auréole de Baltimore, il y a des changements dans tout. Ça n'est qu'un indicateur.
Oui, exact. Tu sais, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est de plus en plus difficile là, de voir les observations qui ont été réellement faites. Il y a de ça quelques années, je t'avais parlé d'un lynx que j'avais croisé en Beauce. Et tu m'avais dit, t'es-tu sûr que c'était ça? C'était-tu un gros chat? C'était quoi? Ses oreilles étaient comment? Ses pattes arrière versus ses pattes avant, ça ressemblait à quoi et tout ça? Puis, tu sais, encore à ce jour, je suis persuadé que j'ai vu ce fameux lynx-là. Là, il y a des observations de cougars. Est-ce que tu y crois-tu? Je veux dire, ça fait plusieurs fois qu'il y a des chasseurs, des pêcheurs qui disent, t'as peu, là, nous autres, on était aux frontières des États-Unis, puis on croise ça au Canada.
Bien, il y en a dans l'Ouest. Il y en a beaucoup dans l'Ouest canadien.
Dans l'Ouest canadien.
Ça se chasse dans l'Ouest canadien. Tu peux actuellement acheter un forfait pour aller le chasser dans l'Ouest canadien.
Mais chez nous, il n'y a pas ça encore, là.
Ben, tu sais, il y en a eu dans le passé. Il y en a eu dans le passé. Maintenant, il y a tellement... À tous les ans, ça explose, ça. Dans le temps du chevreuil, là, on recevait là, dans le passé au magazine là, des centaines de photos par année. Puis Denis Lapointe, le fondateur d'Aventure Chasse-Pêche, était pas mal un expert dans le fait de grossir la photo, changer d'angle un peu. Puis, tu vois, regarde la roche à côté ou regarde le bloc de sel à côté, la grosseur. C'est un chat.
Tu vois, c'est, tout d'un coup, il y a cinq pattes. Normalement, un cougar, ça n'a pas cinq pattes.
Voilà. Mais est-ce qu'il peut y avoir? Ça se peut. Est-ce qu'il y en a qui ont été prouvés des observations au Québec du tout? Et je te dirais que la meilleure personne pour ça, je pourrais te le référer si jamais tu veux lui parler. On a au Québec un expert complètement crackpot. Le seul être humain que je connais qui a fait un PhD sur la moufette rayée, Serge Larivière. C'est un trappeur. C'est un biologiste. Il travaille, lui, avec la communauté CRI au niveau de leurs activités de chasse, de récolte, etc. Il écrit dans le magazine, il fait des conférences. Écoute, lui, là, à un moment donné, sur une île d'un Caraïbe, ils ont un problème avec les ratons laveurs parce que les ratons laveurs volent les œufs de perroquets. Là. Ben, c'est Serge Larivière qui engage dans ce temps-là pour aller régler ce genre de problème-là. Et lui, il avait pondu un article, il avait fait des entrevues, entre autres sur la présence du cougar au Québec, et c'est le plus assis, je te dirais, le plus réaliste dans ses propos là-dessus. Pour ce dossier-là, et un autre dossier que tu vas me parler dans les prochaines années, parce que les gens commencent à allumer sur le loup de l'Est et le coïloup.
Coïloup, ben oui.
Donc ça, c'est des dossiers sur lesquels Serge Larivière, là, et lui, il dément complètement la présence du cougar au Québec. Complètement, complètement. Il dit, amenez-moi n'importe quelle photo, je vais vous l'identifier. Là. C'était les propos qu'il portait à l'époque. Et je suis obligé de te dire que pour avoir écouté et lu ses textes, je comprends biologiquement où est-ce qu'il se positionne, puis dans les faits, dans les forêts où est-ce qu'ils ont répandu, ils s'installent des stickets. C'est des genres de papiers sur lesquels n'importe quel animal qui passe, le poil va coller dessus. Ils en mettent à grandeur. Ça, puis des caméras. Parce que là, à un moment donné, ils se disent « Ouais, mais ces chats-là savent c'est quoi des caméras, puis ils passent pas. » Bon, OK, c'est bon. On va mettre des stickets à grandeur, là, qui sont faits pour ça. Là. Puis là, il n'y a pas le choix de passer par là, autrement, il meurt. Il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas ci, il ne peut pas ça. Pendant des années, il y a zéro poil qui a été ramassé.
Aucune merde.
Non, non, zéro poêle attribuable à un cougar de ramasser dans ses sites. Est-ce qu'on est en train de se tromper complètement, puis qu'en réalité, Mme Gignac nous écoute présentement, bien, est en train d'en regarder un l'autre bord de la fenêtre dans sa forêt? Peut-être. Mais est-ce qu'il y en a eu de répertoriés dont l'observation a été cataloguée, indexée, puis les biologistes ont dit oui, il y avait bel et bien un cougar là au Québec dans les dernières années? La réponse, c'est non.
OK.
Maintenant, c'est de la science, là. Est-ce qu'en réalité, dans la science, tu as le folklore? Entre les deux, y a-t-il une réalité? Peut-être.
Fait que le cougar du Québec est un peu comme le Bigfoot aux États-Unis.
Ouais, si vous voulez avoir des cougars au Québec, allez faire l'épicerie, ça va être plus facile.
Ouais, il y avait des bars à Québec. Dans le temps, c'était le Beaugard, hein?
Ouais, ouais,
Montréal aussi, vrai. Il y a une couple de bars où les personnes ont un âge un peu plus vénérable. En fait, un âge qu'on a maintenant, là, soit dit en passant.
Ouais,
on est comme ça.
On avait les lionnes, c'était au Québécois, les lionnes.
Les lionnes, ah oui, OK. Mais moi, je ne les ai pas connus, les lionnes. Non, je n'ai pas connu les lionnes. Mais les cougars, ça, je m'en rappelais, je ne sais pas. J'avais vu quelques vidéos passer, là, mais c'était pas moi qui cherchais. Là. Ben non. Hey, parle-moi des armes à feu maintenant. On est rendu où avec les fameux programmes du gouvernement du Canada sur les rachats d'armes à feu? Puis pourquoi on est rendu là?
C'est un petit peu catastrophique, puis c'est de valeur parce qu'encore une fois, quand on a sondé l'opinion publique et l'opinion professionnelle au travers des CQ meetings, les comités permanents sur la sécurité publique dans le temps de C71 puis C21, au moment où c'était des projets de loi, c'est un peu ce qu'on avait tous annoncé. Hein, ceux que, malheureusement, négativement, la presse appelle les pro-guns, qui sont des propriétaires légitimes d'armes à feu, là, l'impossibilité de tout ce programme-là, puis la précarité des moyens qu'on met en place.
Mais quand on dit les pro-guns, on parle-tu des gens là, qui sont à la sortie du métro à Montréal et qui ont des armes à feu dans les poches? C'est-tu des pro-guns aussi, ça?
Alors, toi, tu possèdes une voiture?
Oui.
Ah, mais t'es un pro-voiture, selon ce système-là. Et si tu possèdes... OK, donc on nous a identifiés comme des pro-guns, littéralement. Puis, tu sais, ça avait fait ses efforts. On avait gelé les guns, les armes de poing. On a gelé quelques 2500 modèles, marques, et on en rajoute dans cette liste-là, là, qui sont bannis, qui sont identifiés comme étant plus dangereuses que d'autres armes. Ce qu'on a toujours essayé de prouver, c'est que quand c'est dans les mains des propriétaires légitimes d'armes à feu, bien, dans l'histoire de la criminalité au Canada, ils ne commettent pas d'armes. C'est chez les bandits, chez les malpropres que sont problématiques. Mais on a insisté, puis on a réussi à obtenir une loi qui dit qu'il y a une certaine description d'armes qui est bannie complètement, puis qui va être rachetée, donc qui est rendue aujourd'hui dans le registre qui sont des armes prohibées. Elles étaient des armes restreintes ou des armes non restreintes. On les a migrées dans la liste prohibée. Et le gouvernement a dit, bon, regardez, on va racheter ces armes-là, mais on ne veut pas déposséder les gens. Parce qu'il faut savoir que le CCFR et la NFA sont allés jusqu'en Cour suprême pour essayer de prouver l'atteinte au droit à la propriété dans ce dossier-là. Le gouvernement a dit, c'est bon, on va être bon garçon, on va racheter ces armes-là, puis on va dédommager les gens. Ça fait déjà plusieurs années que ce programme-là est en place. Ça fait deux fois qu'on remet une amnistie sur le programme parce que présentement, je serais criminel d'avoir ces armes-là chez nous. Mais le gouvernement n'est pas prêt à faire le programme de rachat. Donc, on met une amnistie en place pour ne pas me criminaliser. Et là, on vient de faire le premier test sur Cap-Breton. Un premier test du programme de rachat qu'on a mis en place pour un peu prouver à la population que ça fonctionnerait, le programme de rachat. Alors, il y a deux grands bas qui tuent. Première des choses, on est sorti du projet pilote sur Cap-Breton avec des chiffres qui portent à confusion. On a démontré un certain nombre d'armes qui ont été rachetées en disant que c'était une grande réussite, alors que le chiffre qu'on affiche, ce sont les armes qui ont été rachetées des commerçants, qui est un programme qui existe depuis plus longtemps que celui pour les individus. C'est-à-dire que les deux programmes ont été mis en place en même temps, mais on a commencé à racheter les armes des entreprises bien avant, puis après ça, des individus. Donc, les chiffres qu'on a affichés, ce sont les chiffres des armes qui ont été rachetées des commerçants et non pas des individus. Le deuxième bas qui blesse, c'est que là, on annonce que pour le programme de rachat national des armes à feu, on attribue un montant de 752 millions de dollars et que ceux qui se soumettront au programme de rachat dans la bonne période seront récompensés ou seront dédommagés puisque au bout du 752 millions, il n'y aura plus de sous dans le programme et vous ne serez pas dédommagé. C'est un peu la voie que prend le gouvernement pour te dire « dépêche-toi à venir nous vendre tes armes ». Maintenant, si on regarde les chiffres, on va faire des mathématiques que vous allez tout comprendre. Le gouvernement dit qu'il y a à peu près 180 000 armes à récolter sur le terrain. Ça prouve à quel point leur système n'est pas prêt parce que les associations qui enregistrent ces armes-là et les associations desquelles sont membres les propriétaires de ces armes-là disent « non, 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 il n'y y a entre 1 et 3 millions d'armes au Canada qui figurent dans cette liste-là, dans les mains des citoyens. Alors, si on prend le plus petit chiffre d'abonnement là, de gens qui ont inscrit là, qui sont inscrits et qui disent « Moi, j'ai tant d'armes là, dans les différentes associations », on va dire 1 million, et tu as 752 millions de budget, eh bien, il va falloir que, administrativement, saisir les armes du peuple coûte en bas de 7,52$ par arme à feu, la saisir, l'enregistrer, la processer dans le système, la détruire, etc., maintenir ce système-là, toute la campagne de mise en place. Vous voyez, le Cap-Breton, ils ont donné 103 000$ au poste de police là, pour la journée de rachat. Fait qu'imaginez, 7,52$, c'est ce qu'il faut que coûte le programme administrativement pour le rachat des au minimum 1 million d'armes à feu, on dit entre 1 et 3 millions, pour qu'il y ait assez d'argent pour juste soutenir administrativement le programme. Donc déjà, c'est impossible. Alors imaginez-vous pas qu'il y a quelqu'un là-dedans qui va être dédommagé, là. Il n'y a personne qui va être dédommagé. Ils ne dédommageront pas comme ils l'ont promis pour bypasser les accusations de dépossession ou d'atteinte à la propriété. Ça ne se passera juste pas. C'est malheureux, mais c'est là qu'on se ramasse. Puis, de l'autre côté, on regarde ce qui blesse encore plus, l'atteinte du but du gouvernement dans la mise en place de cette loi-là, qui était de diminuer la criminalité armée. Et on a dit en comité permanent sur la sécurité publique, bien, ça donne absolument rien d'agir de cette façon-là. Vous ne diminuerez pas la criminalité. Au contraire, vous allez motiver le marché noir et augmenter la criminalisation des armes.
Exact.
Et si on regarde l'évolution des crimes violents depuis l'investiture de Trudeau, eh bien, sous la ligne hausse des crimes violents commis avec une arme à feu depuis 2013, c'est 55% d'augmentation.
OK. Mais là, je me pose une question, parce que là, ce que je suis en train de lire sur un article de Radio-Canada, Martin Bourget, c'est qu'il y a des responsables gouvernementaux qui auraient déclaré à Radio-Canada que le programme destiné aux entreprises avait jusqu'à présent permis de récupérer 12 000 armes à feu prohibées contre 22 millions de dollars en compensation. Et là, je fais 22 millions de dollars. On va aller faire ça ici, là. On va le faire live. 22 millions de dollars. 1, 2, 3. On est-tu là-dedans? 22 millions de dollars, oui. Divisé par 12 000. 1, 2, 3. On est dedans. C'est 1 833 $ par arme à feu. Est-ce que c'est ça qu'on donne?
Ça, c'est ce qu'on donne aux commerçants. C'est ce qu'on a donné. Ça, c'est le programme de rachat pour les commerçants.
Parfait.
C'est le premier programme de rachat qui a été mis en place parce que, nécessairement, les commerçants se ramassaient captivés là-dedans. Puis, je t'explique dans quel sens se sont ramassés captivés là-dedans. C'est que, capturés là-dedans. C'est que les premiers amendements, je pense que c'est G40 et G47, ce qu'on disait, c'est que dorénavant, sont rendus illégales, prohibées, toute arme à percussion centrale de tant de joules ou plus pouvant contenir un chargeur, ou percussion centrale pouvant semi-automatique pouvant contenir un chargeur de plus de 5 munitions ou plus. Donc, ça rendait illégal tout ce qu'on avait dans nos armes, dans nos coffres à armes à nous autres. Ils ont changé ça pour dire, bon, mais dorénavant, il est interdit de vendre ou de commercer toute arme qui répond à ces mêmes critères-là. Donc, au lieu de criminaliser qu'est-ce qu'il y avait dans les coffres à armes des individus, ils ont criminalisé ce qu'il y avait chez les marchands. Donc, tu n'as plus le droit de les vendre. Puis, ils ont migré une certaine liste d'armes de non restreints et restreints à prohiber par-dessus tout ça. Alors, les premiers qui ont été indemnisés, parce qu'on a changé les amendements pour dire, bien, ce que vous avez en magasin, vous n'avez plus le droit de les vendre. Mais là, les commerçants se sont virés de bord. En fait, comme nous autres, là, on fait du commerce. On vient de commander des modèles d'armes qui sont rentrés dans nos magasins, dans nos inventaires. Puis là, vous venez de les déclarer non vendables, illégales à vendre.
Oui.
Fait qu'on a commencé par les commerçants pour indemniser les commerçants. Puis le programme pour les commerçants, bien, il est là. Puis oui, effectivement, ils ont bel et bien indemnisé. Là où ça fait mal, c'est que là, on est rendu aux consommateurs. Puis on dit aux consommateurs, total tout, on met 752 millions dans le programme. Ce qui veut dire 7,52 $ de frais administratifs maximum par arme à feu au niveau du programme de rachat. Après ça, on ne donne plus rien. Fait que dépêche-toi de venir nous les porter, autrement, tu vas te ramasser à la fin de la file et il ne restera plus une maudite scène. C'est là où est-ce que c'est rough? C'est rough parce qu'on a tout bâti alentour de... Première des choses, la promesse n'a pas fonctionné. On n'a pas diminué la criminalité, on l'a augmenté de 55%. Dans un deuxième temps, les gens qu'on a capturés là-dedans, qui ne sont pas responsables dans l'histoire de la criminalité du Canada, des méfaits avec armes à feu, vont se faire déposséder sans avoir une maudite scène.
Ça n'a pas de sens. Donc, on a calculé, pour ce qui est des entreprises, c'est 1833 $ qu'on donne à l'entreprise. Oui. Si toi, tu avais à te faire racheter ton arme, il te donne combien?
Ben, présentement, absolument rien, parce qu'il ne restera rien dans le programme. Il y a une liste de prix.
Mais c'est quoi l'avantage pour toi de redonner ton arme?
Absolument rien. L'avantage de donner mon arme, c'est de ne pas me faire criminaliser, parce que si je ne la redonne pas, j'ai un dossier criminel. Dès que l'amnistie va être terminée, là, on a l'amnistie reporte la date limite, la date butoir à la fin 2026. Mais dès la fin 2026, ceux qui n'obtempéreront pas, qui ne remettront pas ces armes-là qui sont rendues prohibées, vont être criminalisés. Alors, dans mon cas, à moi, par exemple, où est-ce que mon métier me demande d'utiliser des armes à feu pour la chasse, pour faire des tests, pour etc., j'ai plus le droit d'utiliser d'armes à feu, là. Je me fais retirer le droit d'utiliser des armes à feu. Alors, tu n'auras pas le choix de les remettre. Maintenant, il y a une liste de prix qui a été mise en place qui détermine à peu près la valeur de ces armes-là si le programme de rachat fonctionnerait et qu'il y aurait des fonds dedans pour racheter. Et même à ça, tu regardes les prix qui sont redonnés sur certaines armes. J'ai des armes ici en bas avec lesquelles j'ai fait du tir sportif pendant quelques années. Et le montant établi, c'est même pas le montant du canon qui est sur l'arme. C'est même pas la valeur du canon qui est sur l'arme. Dans certains cas, c'est à l'inverse. Il y a des montants qui ont été mis en place que certaines personnes ont des vieux bouts de bois qui, s'ils sont bien entretenus, fonctionnent encore très bien, qui vont se faire donner des maudites belles sommes d'argent. Mais dans d'autres cas, là, il y a des armes plus exotiques un peu là, qui ont été évaluées à 800, 1000, 1200 $, ce qui n'est même pas le prix pour remplacer un canon là-dessus.
Incroyable. J'ai d'autres questions à te poser. Est-ce que tu peux rester avec nous encore quelques minutes?
Aucun problème.
Parfait. Je vous rappelle qu'on est avec Martin Bourget, spécialiste chasse-pêche. Il est animateur, chroniqueur spécialisé, fort de nombreuses années d'expérience dans l'industrie de la chasse et de la pêche. Martin Bourget, c'est la référence dans le domaine. Martin Bourget, c'est aussi le président du groupe Aventure Chasse-Pêche. On fait une courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Le Pit Stop. Le duo Gravel-Marceau est de retour maintenant à 7h45 pour traiter des gros dossiers du jour. Votre nouveau rendez-vous incontournable du matin. Le Pit Stop. Le Pit Stop.
Avant de mes gars, dit Yann, j'ai réservé l'hôtel pour le tournoi du...
Mon plus jeune.
Ouais. Parce que c'est moi qui monte au tournoi, mais c'est pas moi qui réserve. Fait qu'elle me dit, tu me dois 500$. Pardon? 5 repas.
Elle a pris le penthouse.
Ben c'est au début de l'année, les parents, on est niaiseux aussi. Voulez-vous des tournois? Oui, oui, oui. En voulez-vous un troisième? Oui, oui, oui. Puis là, les factures rentrent, tu fais oh.
Quand t'as m'envoyé, tu me dois 700$, tu comprends que j'étais en train d'écrire « Je n'ai pas les moyens. Est-ce que je peux aller dans un motel 15 minutes, des siestes, là?
» Le Pit Stop 7h45 à Boulevard 102.1. Maintenant 100% parler en semaine.
Le défi chaud-froid d'EnviroConfort a trouvé son gagnant de la thermopompe Lennox 12 000 BTU d'une valeur de 5 000$.
Salut, t'es-tu Daniel Bégin?
Oui.
T'aimerais-tu savoir une thermopompe?
Ah, je pense que ma famille aimerait bien ça.
Ben, t'as gagné une thermopompe.
Hey, c'est malade.
Hey, félicitations, Daniel.
Hey, merci beaucoup.
Boulevard 102.1 et EnviroConfort, fier partenaire de ton quotidien.
Chez Antirouille Métropolitain, c'est le grand blitz avant l'hiver. Protégez votre véhicule contre la rouille et prenez rendez-vous sur antirouille.com. Antirouille Métropolitain, grouille avant que ça rouille.
C'est le novembre fou chez Sale. Économisez jusqu'à 50% sur une sélection d'articles et découvrez les rabais choc. Trouvez tout pour l'hiver, manteaux, bottes, vêtements et plus encore. Sale, votre destination plein air 100% québécoise.
Si tu cherchais un signe pour enfin soulager tes douleurs aux pieds, eh bien, le voici. La Clinique podiatrique Beauport compte 5 podiatres qui s'occupent de traiter les douleurs aux talons, les verrues plantaires et les ongles incarnés. Occupe-toi de tes pieds. Rends-toi sur podiatrebeauport.com.
Le Salon de la motoneige et du quad de Québec, présenté par Beneva, c'est pour tout le monde, autant les débutants que les passionnés.
Ah, ouais?
Oui, parce que sur place, il y a des centaines de motoneiges et quads neufs et d'occasion.
Cool! Et est-ce que je vais pouvoir magasiner?
Oh que oui! Des vêtements, des accessoires et même des séjours avec randonnée. Et comme c'est le seul salon de l'industrie au Québec...
Ah ben là, c'est sûr qu'on y va!
De vendredi à dimanche au Centre de foire d'Exposité, place au Salon de la motoneige et du quad de Québec, présenté par Beneva.
Du 3 au 9 novembre, c'est la semaine québécoise des rencontres interculturelles.
Tissons des liens entre nous.
Car nous avons le Québec en commun.
Qu'on soit d'ailleurs ou d'ici.
Participons à des activités qui nous rassemblent partout au Québec pendant cette semaine québécoise des rencontres interculturelles.
Consultez les calendriers pour les activités dans votre région sur québec.ca/rencontres interculturelles.
Un message du gouvernement du Québec.
Sur mes chantiers, j'ai assuré ma machinerie puis mes outils chez Beneva. Puis ils ont fait le tour de mes besoins. Tellement du bon monde. Ça m'a donné le goût d'être encore plus une bonne personne. Fait qu'à cette heure, sur mes chantiers, il n'y a pas une cantine, il y a 5 cantines. VG, vegan, keto, flexi quelque chose, puis un rack hot dog. La gang est bien contente.
Beneva. Bon monde, bon prix. Votre entreprise est bien assurée. Obtenez une soumission.
Local, naturel et livré directement chez toi. C'est ça, Alimentation FC. Plus de 300 coupes de viande, nature, marinée ou farcie et le tout à prix gelé pour un an. Qualité garantie à 100 %. Alimentation FC, la viande sans compromis. AlimentationFC.com.
Chez Climatisation Paquette, en plus d'avoir un service exceptionnel et un délai d'intervention de 24 à 48 heures, nous vendons d'excellentes thermopompes de marque Mover, Gree et Stelpro. Pour un service après-vente solide et des produits de qualité exceptionnelle, c'est Climatisation Paquette.
Profitez d'une offre exceptionnelle chez Gresh et Scaff. Achetez une paire de lunettes complètes avant le 31 décembre et recevez deux paires en cadeau, dont une solaire. Oui, deux paires en cadeau. Dépêchez-vous. Chantal Gravel, opticienne. Détails et rendez-vous sur gresh-scaff.com.
Une sortie de famille à moitié prix? Ah! Un souper romantique à rabais.
Ah oui, mais ça dans le panier avec les autres offres.
Cet automne, ne ramassez pas juste les pommes et les citrouilles. Cueillez aussi les meilleures offres sur mercado.fm.
Obtenez une demande de pardon d'une valeur de 1 000 $ à 500 $ chez Identité Québec. Et un chèque cadeau d'une valeur de 100 $ à 50 $ chez Bijoux Particella.
Mercado.fm, un verger de rabais.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jetable en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance. Et jouer à la roulette, au blackjack et à bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Le bilan de François Legault est désastreux. Ce gouvernement a assez duré. Le 29 novembre, tous ensemble, on fait front pour le Québec en participant au Grand Rassemblement à Montréal. Un message de la CSN, le maillon fort depuis 1921.
Pendant que notre argent est jeté par les fenêtres avec Saclic et Nordvolt, nos services publics continuent de s'effriter. Le 29 novembre, on fait front pour le Québec en participant au Grand Rassemblement à Montréal. Un message de la CSN, le maillon fort depuis 1921.
Dans la vie, il y a deux sortes de monde. Ceux qui connaissent et aiment Décathlon et ceux qui n'ont pas encore découvert notre marque. Avec une vaste sélection de produits pour plus de 60 sports, on a tout ce qu'il vous faut pour profiter de chaque instant dehors cet hiver. Trouvez innovation et qualité à des prix abordables, le tout sous un même toit.
Venez visiter le magasin Décathlon de Sainte-Foy ou du PEPS de l'Université Laval.
Prête à jouer cet hiver?
L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de short. Pis même ta poche de hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
C'est un plaisir de passer la soirée avec Martin Bourget, qui est aujourd'hui président du groupe Aventure Chasse-Pêche. On va être encore ensemble pendant quelques minutes. Martin, si tu veux bien, juste avant, tu parlais du programme de rachat là, des armes par le gouvernement. Est-ce qu'il y a encore un peu de la gang du groupe Poly, je me souviens, dans cette histoire-là? Puis si oui, pourquoi ces gens-là se concentrent pas? Exemple, je vais donner un exemple comme ça. Sur le crime organisé à Montréal, où des jeunes de 12, 13, 14 ans ont des armes à feu illégales dans leur poche, que ce soit les gangs de rue ou encore que ce soit la mafia ou les Hells Angels, on donne de la job à des petits cons et on leur met des armes à feu illégales dans les mains. Pourquoi Poly, je me souviens, ne s'occupe pas d'eux autres plutôt que de s'occuper des chasseurs-pêcheurs qui, eux autres, quand ils utilisent des armes, ils les utilisent à bon escient?
C'est doux entendre ça d'un non-chasseur. C'est le fun. J'aime ça. J'aime ça. Je vais pousser ma réflexion plus loin. Pourquoi un gouvernement permet à ce qu'à chaque année, on mette 100% de nos efforts sur la reconnaissance d'un événement malheureux comme celui-là au moment où est-ce qu'il y en a eu des centaines? Où est le respect pour les autres événements? Ça, c'est la première question. La deuxième, quelle place on est prêt à donner à un lobby qui est payé grassement et qui poursuit un but spécifique, quelle place on est prêt à donner? On a mis, tu veux la réponse à ta question, on a mis Nathalie Provost comme secrétaire à la nature, secrétaire parlementaire à la nature. On lui a donné un poste auprès des Hawks. Elle a passé dans sa circonscription, Kearney. Kearney, qui, lorsqu'il l'a présenté, il l'a appelé Nathalie Pronovo, puis il l'a rallié à l'événement du collège Dawson et non pas de la Polytechnique.
Où Anastasia D'Souza avait été tuée par Kim Vergil.
D'où la loi Anastasia, qui maintenant s'appelle la loi 9 pour les armes restreintes.
Ouais.
Et Nathalie a été mise en place comme secrétaire d'État à la nature. Et rapidement, nous autres, on a réagi. On a dit, là, il ne faut pas qu'elle s'ingère. Parce que là, elle a une fesse sur la chaise du lobby, Poly se souvient, contre les armes à feu, puis une fesse au Parlement. Là. La ligne est mince en tabarouette entre les deux. Puis rapidement, parce que là, notre Gary, qui présentement a le dossier de la sécurité civile entre les mains, a peine à répondre correctement. On l'appelle amicalement notre petit Oompa Loompa. On l'aime beaucoup parce qu'il fait beaucoup d'erreurs et il prouve que le dossier de la C-21 était une grosse merde, littéralement. Il y a tellement de la misère à répondre que le trois quarts du temps, il y a une question qui est adressée. C'est Nathalie Provost, secrétaire parlementaire à la nature, qui se lève pour défendre la position des libéraux envers les armes à feu face aux conservateurs. Et on a vu Pierre Paulus, entre autres dernièrement, en pleine session parlementaire, dire « Monsieur le Président, s'il vous plaît, quand je pose une question au ministre de la Sécurité publique, j'aimerais que ce ne soit pas la secrétaire à la nature qui se lève pour me répondre. » Alors, il y a une ingérence. Ils sont rendus jusque-là. Ça en est mal à dire. Puis, c'est malheureux parce que tu as raison. Moi, j'aimerais m'asseoir avec ces gens-là et je l'ai offert des centaines de fois. Je signe un non-disclosure. Ton avocat peut être là. Il n'y a rien qui va sortir de là. Je veux qu'on s'assoie et qu'on parle de père de famille à mère de famille, à sœur, à... Tu as une famille, là? De pourquoi on n'est pas en train de tous travailler ensemble pour réellement enrayer le crime et non pas motiver le marché noir des armes à feu en poussant sur un système qui ne fonctionne pas puis qui fait exploser les crimes violents commis avec armes à feu à 55% depuis que Trudeau est là puis vous donne la tribune à tous les jours.
Ah, c'est une catastrophe. On fait ça tout à l'envers. Puis, tu sais, pendant ce temps-là, on sait exactement par où passent les armes et on ne fait absolument rien. C'est extrêmement inquiétant.
Puis pour vrai, là, moi, c'est malheureux en tabarouette ce qui s'est passé à Polytechnique. Là.
Ben oui.
C'est tellement malheureux que moi, là, ma gang, là, les gens à qui, le groupe à qui j'appartiens, là, on s'est mis en place plein de moyens pour prévenir les accidents avec armes à feu, pour prévenir les manques de sécurité. On est les premiers à vouloir s'asseoir à table avec ces gens-là. Fait qu'on a les connaissances. On peut vous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise pas? Mais il n'y a aucune écoute. De chercher la logique là-dedans, puis là, Rossel Aurore Bouchard doit se revirer présentement dans son salon et dire « Ah, petit Bourgette, tu commences à comprendre. » D'essayer de comprendre la logique là-dedans puis de se débattre sa logique, on ne gagnera jamais ce débat-là. C'est un débat, Yannick, qui est idéologique à 100% et jamais on aura raison. Jamais la raison l'emportera là-dedans parce que la raison ne fait pas partie de l'agenda de mise en place de ce genre de loi-là.
Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a une morale et une éthique. Si mettons qu'on y va au criminel. Quand c'est le temps de choisir des jurys, là, ben, il y a des gens qui passent devant toi. Puis là, tu as le juge qui est là, tu as les deux avocats, avocat de la couronne, avocat de la défense, qui entendent le citoyen jaser. Puis là, qu'est-ce qui ferait en sorte que vous seriez un bon jury pour le procès de cet individu-là qui a tué son enfant? Le jour où la fille dit « Ben moi, là, mon enfant a été tué par un individu comme ça, tu penses-tu qu'ils vont la laisser dans le jury? » Ben non, parce qu'elle va être impliquée émotivement. Elle a vécu des choses épouvantables. Fait que, tu sais, elle, là, dans sa tête, là, son objectif, c'est de se venger, là. Ils vont la tasser de là, là. Donc, pourquoi on accepte ça des gens qui ont été traumatisés par un fou furieux qui a ce jour-là, puis là, on se dit, bien, eux autres, ils vont devenir membres d'un groupe de pression, puis finalement, bien, elle va devenir une politicienne, puis finalement, on va y donner des dossiers qui l'intéressent. Je veux dire, c'est plus rationnel, là, ce qu'elle donne comme conseil.
Si on va plus loin que ça, elle est assise à la barre d'un gouvernement qui a mis en place la loi C5, la loi C5 qui permet à des minorités culturelles ou encore des gens des Premières Nations de purger leur peine en collectivité pour en limiter la surreprésentation en milieu carcéral. Elle fait partie d'un gouvernement qui ont allégé les mesures de remise en liberté conditionnelle. Alors, on a des récidivistes violents qui se font remettre en... À un moment donné, là, la preuve est dans le fucking pudding. Là. Ton gouvernement met en place des dossiers qui libèrent des crottés qui vont commettre et qui vont refaire les crimes pour lesquels ils ont été condamnés. On donne des peines Netflix. À la place de dire là, aux Premières Nations ou aux minorités ethniques, vous êtes trop représentés en milieu carcéral, il va falloir régler le problème pour plus que vous y ramassiez. On les sort de là dans des peines Netflix. Et puis, on s'en vient dire, bien, il faut tout faire pour décriminaliser le Québec. On va enlever les armes à feu aux chasseurs pour plus que ça se reproduise. Mais oui, mais ton gouvernement motive la criminalité, motive le marché noir des armes à feu, remet en liberté des récidivistes, donne des peines Netflix à des gens qui ne les respectent pas. Y a-tu quelqu'un qui n'a pas compris là-dedans? Mais dans le système dans lequel on est, ils ont l'immunité diplomatique, ils peuvent se parjurer comme ils le veulent. Puis malheureusement, avec des chèques, bien, on contrôle des votes. Là, je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais on comprend. On ramène les gens pour voir.
Ouais. Hey, ouais. Martin Bourget, tu es le président du groupe Aventure Chasse-Pêche. Pour les auditeurs ce soir qui nous écoutent, ils veulent en savoir plus sur les passionnés de chasse et de pêche. On vous trouve comment?
Et essentiellement, à 21h, tous les jeudis soirs sur les ondes de Télémag et en direct aussi sur YouTube. On est aussi maintenant sur Sportsman Canada. On est aussi sur Carbon TV et dernièrement, on est sur Outdoor TV. Donc, vous pouvez nous pogner à peu près partout, sinon sur les réseaux sociaux, hein, très facilement. Notre magazine aussi qui sort à tous les 3 mois. Abonnez-vous au magazine directement sur la plateforme aventurechassepêche.ca. Là, vous allez tout savoir.
C'est toujours un plaisir, Martin. On reprend ça dans quelques semaines.
Yes, un gros merci.
Passez une agréable soirée. On se reparle demain. Salut tout le monde. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Le compte de 1, de 2 et de 3. Une autre victoire de Boulevard 102-1 contre la fin.
On t'attend le 21 novembre prochain au Centre Horizon pour le gala spécial Luttons contre la faim, deuxième ronde. Mettant en vedette nul autre que... Yannick Marceau!
Oh oui, c'est moi, Antonine. 100% des ventes de billets seront versées à la bouchée généreuse. Tu peux pas manquer ça. Virginie Gagnon, mon amie, va essayer de me battre, de me donner une volée en compagnie de plusieurs combattants de la NSPW.
On te promet une ambiance de feu et le sentiment de fierté de contribuer à une bonne cause.
Fait que t'attends quoi? Achète tes billets dès maintenant au pointdevente.com, section NSPW.
Chez Anti-Rouille Métropolitain, c'est le grand blitz avant l'hiver. Protégez votre véhicule contre la rouille et prenez rendez-vous sur antirouille.com. Anti-Rouille Métropolitain, grouille avant que ça rouille.
Vos pieds vous font souffrir? La clinique podiatrique Beauport est là pour vous depuis presque 15 ans. Douleurs aux talons, ongles incarnés, verrues plantaires? Les 5 podiatres de la clinique podiatrique Beauport vous proposent un éventail de solutions. Parce que vos pieds en santé, c'est notre priorité. Podiatrebeauport.com.
Envie d'un nouveau défi? Climatisation Paquette est présentement à la recherche d'un frigoriste. Joignez une entreprise en pleine croissance avec des opportunités d'avancement. Nous recherchons quelqu'un de motivé et de passionné. ClimatisationPaquette.com.
Climatisation Paquette.
Le Salon de la motoneige et du quad de Québec, présenté par Beneva, c'est pour tout le monde, autant les débutants que les passionnés.
Ah, ouais?
Oui, parce que sur place, il y a des centaines de motoneiges et quads neufs et d'occasion.
Cool! Et est-ce que je vais pouvoir magasiner?
Oh que oui! Des vêtements, des accessoires et même des séjours avec randonnée. Et comme c'est le seul salon de l'industrie au Québec...
Ah, oh ben là, c'est sûr qu'on y va!
De vendredi à dimanche, au Centre de foire d'Exposité, place au Salon de la motoneige et du quad de Québec, présenté par Beneva.
Au cours de la dernière année, le gouvernement a fait plusieurs propositions au syndicat de médecins pour améliorer l'accès aux soins de santé. Malheureusement, toutes ces propositions ont été refusées. Devant l'urgence d'agir, le gouvernement a adopté une loi qui permettra à plus de Québécois d'avoir accès à un médecin de famille, notamment le soir et la fin de semaine, et de pouvoir consulter un médecin spécialiste plus rapidement, par exemple pour obtenir une chirurgie. Parce que notre priorité, c'est l'intérêt des patients. Un message du gouvernement du Québec.
Les études universitaires vous intéressent? Le samedi 8 novembre de 10h à 15h, découvrez votre programme d'études lors des portes ouvertes de l'Université Laval. Kiosques, conférences et visites guidées vous attendent. Tous les spécialistes seront réunis pour répondre à vos questions. Vous avez fait votre choix? Déposez votre demande d'admission sur place avec l'aide de nos responsables. Le samedi 8 novembre, venez sur le campus découvrir un milieu d'études et de vie passionnant. On vous attend. Détails sur ulaval.ca/porte-ouverte.
Ton nouveau réflexe en te réveillant le matin, c'est d'écouter Marceau le matin. Boulevard 101, maintenant 100% parlé en semaine.
Les intellectuels, ça parle.
Êtes-vous sûr qu'elle parle de nous autres, hein?
Une sortie de famille à moitié prix? Ah! Un souper romantique à rabais.
Ah oui, mais ça dans le panier avec les autres offres.
Cet automne, ne ramassez pas juste les pommes et les citrouilles. Cueillez aussi les meilleures offres sur mercado.fm.
Obtenez une entrée pour 2 personnes d'une valeur de 84 pour 42 chez Défi Évasion. Et une visite animée Crime en Nouvelle-France d'une valeur de 50 à 25 chez Promenade Fantôme.
Mercado.fm, un verger de rabais.
Après les lunchs, le soccer, puis le ménage, ben j'ai mon voyage. Ça tombe bien, parce que Super C t'accueille à bord du concours J'ai mon voyage. Cours la chance de gagner l'un des 5 crédits voyage de 10 000 $ Pour embarquer, t'as juste à acheter un produit participant puis présenter ta carte boîte à la caisse ou en ligne. C'est le temps de troquer la boîte à lunch pour la valise. Puis manque pas ton vol, le concours prend fin le 19 novembre. Aucun achat requis, 18 ans et plus, détails et conditions au supersi.ca. Hey, c'est super, Super C!
CA Québec vous offre sa carte classique au meilleur prix de l'année. 6,25 $ par mois. Oui, c'est moins cher qu'un grand latté. 6,25 $ par mois pour des économies chez nos partenaires, dans les garages recommandés, sur l'essence, à la boutique CA et même sur des offres voyages exclusives. Et bien sûr qu'à 6,25 $ par mois, ça inclut les services d'assistance routière, le dépannage, le survoltage et même un accompagnement si vous ne pouvez pas conduire. L'hiver arrive, soyez prêts. Devenez membre pour seulement 6,25 $ par mois. Même pas besoin de sacrifier votre budget café. Offre d'une durée limitée, détails sur caquebec.com.
Plongez dans 888casino.net, conçu pour jouir des machines à sous primées, pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir. Pour ce